Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec Nathalie Malissé au sein en fait de la CNCC pour faire cette interview. Merci Nathalie.
Bonjour Florian et bienvenue.
Alors aujourd'hui, on va parler de vous, comment vous êtes arrivé à faire expert comptable, commissaire aux comptes, de votre passé, de votre présent actuel avec toutes les obligations que vous avez ici et votre futur.
Ça marche.
Mais juste avant, moi j'étais renseigné sur vous. Donc j'ai fait une petite présentation de vous et j'ai utilisé un petit peu de ChatGPT. Alors vous allez me dire si c'est pas trompé. Hein.
Vrai ou faux alors ?
Ouais.
Ça marche.
Alors, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et expert de justice.
Ouais.
La position actuelle que vous avez, c'est fondatrice du cabinet Annexis qui est situé à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux. Et vous dirigez à peu près depuis 24 ans.
C'est vrai.
Avec des études de commerce à Kedge, qui est en fait l'école de commerce de Bordeaux.
Tout à fait.
Vous êtes membre du bureau national de la CNCC depuis 2020.
Oui.
Et co-conceptrice de l'outil cyber dédié à la profession des commissaires aux comptes.
L'outil cyber audit, oui, tout
voilà.
À fait.
Petite spécialisation, ça m'a marqué. En plus de ses compétences en comptabilité et en audit, Nathalie se distingue par son expertise en cybersécurité et conformité RGPD.
C'est vrai aussi.
Oui, plutôt pas mal.
La sécurité des données. Non, oh, ouais, c'est pas trompé.
Il a oublié quelque chose ou pas ?
Oui, marathonienne.
Ça,
je pense que c'est un trait de caractère qui me définit. C'est-à-dire que je suis capable de beaucoup d'endurance. D'entraînement, de challenge et d'endurance sur des projets.
Et de l'abnégation surtout, parce que c'était 40
kilomètres. Le goût de l'effort, 42 kilomètres, 195, absolument.
Sans s'arrêter ?
Sans s'arrêter, meilleur temps, 3h26.
Bon, bah, moi,
j'y arriverai pas. À rajouter sur la fiche Wikipédia.
Oui, on la mettra. Allez, on va sur la partie importante, le passé. Le déclencheur de carrière, en gros, c'est... on sait très bien que expert comptable, c'est pas un métier, ou commissaire au compte, souvent, c'est même pas ce que c'est. Tiens, à 7 ans, la petite fille que vous étiez s'est dit « je veux faire ça ».
Pas du tout.
Comment vous avez dit « ça y est, c'est ce métier » ?
Alors, je ne suis pas comme Obélix, hein, je ne suis pas tombée dedans. Comment je suis venue à la fonction d'expert comptable ou de commissaire aux comptes ? Tu l'as dit, Florian, c'était au moment de mes études à Kedge, première année. Cursus général obligatoire pour tout le monde, on fait de la stratégie, on fait du marketing, on fait des RH et on fait de la compta. Et là, la révélation. Les états financiers, la compta me raconte des choses sur les entreprises et je me dis, c'est ça que je veux faire. Donc, je vais voir le responsable du département audit finance à Kedge en disant, expliquez-moi comment on devient expert comptable. Bon, alors, la douche froide, immédiate, sa première réponse est, c'est pas un métier pour les femmes.
Bah, dis donc.
N'empêche, je veux quand même savoir comment on fait. Et donc, j'ai passé en parallèle de Kedge tous mes diplômes pour devenir expert comptable. Voilà comment je suis arrivée à ce métier.
Pourquoi ce n'est pas un métier de femme ? Ça, je...
Alors,
c'est surpris, moi.
On s'est expliqué par la suite, oui, mais il faut remettre ça dans le contexte. En 1995, à l'époque, on s'est revus depuis, on s'en est reparlé. C'est que tout simplement, c'était une époque où ça nécessitait énormément de temps de travail. Et lui, ce qu'il observait, c'est que le temps qu'il passait au cabinet était pour lui pas compatible avec la vie d'une femme qui était aussi celle d'une épouse, d'une mère. Alors, OK, ça donne une vision un peu sexiste des choses, mais en réalité, le fond de ses propos, c'était plutôt, je pense, pour nous préserver, nous protéger, pas pour nous interdire.
Oui, le côté bienveillant,
absolument.
Pro et perso. Et donc, juste derrière, un stage, vous avez fait comment ?
Il y a immédiatement à la sortie de l'école, je candidate au culot pour un poste de collaborateur dans un cabinet d'expertise comptable et d'audit. Un des associés me reçoit, il m'explique qu'en fait, il cherchait non pas un stagiaire à expert comptable, mais un stagiaire tout court pour la période fiscale. L'entretien va durer 2 heures, ça match, on s'entend hyper bien. Il me rappelle peu de temps après pour me dire « bon, j'ai pas de poste, mais je vous en propose un ». Donc, c'est un début d'une aventure parce que finalement, pas forcément beaucoup de choses à me confier au départ. Et puis, je pense qu'en moins de 2 mois, j'étais débordée de travail puisqu'on est quand même dans une activité où il y a toujours beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est le début d'une aventure formidable. Je suis dans un cabinet où il y a 4 associés qui exercent chacun de manière totalement différente leur métier. Donc, ça me démontre aussi qu'on est sur un métier qui est pluriel, avec des clients totalement différents, une manière d'aborder le management des collaborateurs aussi différente. Donc, vraiment, une super expérience. D'ailleurs, ce sera ma seule expérience de salarié, puisque je serai diplômée à l'issue de mon expérience dans ce cabinet. Je créerai mon cabinet par la suite.
Comment ça s'est passé pour avoir justement le sésame, le diplôme d'expert comptable? C'est un parcours facile ou chemin d'embûche à tout jeune?
Non, plutôt simple pour moi. J'étais dans un groupe de stagiaires qui était très soudé. Donc, on était une bande de 15-20 stagiaires à faire la fête après chaque journée de formation. Et d'ailleurs, plus de 30 ans après, on continue de se fréquenter. C'est quand même quelque chose de très fort. Et surtout, c'est que l'avantage du cabinet dans lequel j'exerçais, c'est que j'avais beaucoup de missions qui m'étaient confiées. J'avais la responsabilité du pôle audit et aussi mon maître de stage était expert judiciaire. Et il m'a formée sur l'expertise judiciaire. C'est devenu d'ailleurs une spécialité. Et c'est pour ça que je suis maintenant expert de justice. Et j'ai d'ailleurs fait mon mémoire sur l'expertise judiciaire. Donc, pour moi, pas une simple formalité d'obtenir ce diplôme, mais plutôt un bon moment, parce que j'ai vraiment pu compter sur les différents associés pour m'accompagner pendant tout mon stage, pour me faire progresser. Et d'ailleurs, j'ai été moi-même à plusieurs reprises maître de stage, je le suis encore. Et ma grande fierté, c'est que tous mes stagiaires, tous ceux qui sont passés par le cabinet, ont tous été diplômés du premier coup, comme moi. Donc, j'ai des exigences sur mes stagiaires en termes de qualité, de rapport et de mémoire, et d'implication et d'évolution dans les tâches qui leur sont confiées.
Donc, il faut venir travailler avec vous, comme ça on est sûr d'être diplômé.
Oui, mais il faudra bosser.
Oui, c'est bien, il faut le rappeler.
Absolument. Il faudra travailler, mais si on est dans une relation gagnant-gagnant, on travaille pour le cabinet, mais on travaille aussi pour soi. En fait, le deal que je passe avec les stagiaires experts comptables, c'est je vais vous apprendre à devenir expert comptable. C'est-à-dire pas avoir forcément que des compétences, mais à le devenir vraiment, à habiter le métier, donc avoir des bons réflexes en matière de relations clients, en matière de management des équipes et aussi de suivi. Et je suis très impliquée dans le choix des sujets de mémoire. J'accompagne et j'hésite pas non plus à financer des formations supplémentaires pour aider mes stagiaires à rédiger des mémoires de qualité et à pouvoir prétendre à un exercice serein du métier.
Je voudrais qu'on revienne sur cette partie expertise judiciaire. C'est pas courant et souvent c'est bien d'être accompagné par des confrères qui font cela, mais il n'y en a pas beaucoup. Comment vous êtes baigné ou tombé dans cette fameuse marmite et ce qui vous a plu pour après dire moi il faut que je le fasse à mon tour?
Alors l'expertise judiciaire, on l'apprend nulle part. Et d'ailleurs, c'est normal parce que c'est pas un métier. C'est une fonction, on est rattaché à une liste, hein, on est inscrit sur une liste auprès de la cour d'appel, parce que nos pairs considèrent qu'on présente les compétences techniques et morales suffisantes pour pouvoir exercer cette fonction d'expert judiciaire. Et comment j'ai découvert cette partie-là du métier d'expert comptable? Bien, tout simplement parce que mon maître de stage m'a très vite demandé de l'accompagner, de l'aider dans les différentes réunions d'expertise judiciaire, de l'aider dans les travaux d'investigation. Et quelque part, quand on réalise une expertise judiciaire, on mène une enquête. On va chercher des éléments, on participe à un procès, on essaie de trancher sur des litiges qui opposent les demandeurs, les défendeurs. C'est passionnant et chaque expertise, c'est une nouvelle histoire qui se raconte. Et c'est ça aussi qui me passionnait.
C'est une approche différente de faire un dossier
Oui.
classique?
Ah, complètement, parce qu'un expert judiciaire, il va traiter aussi bien de travaux qui vont relever du droit de la famille, comme par exemple d'évaluer des patrimoines lors d'un décès, lors d'un divorce, comme on va être amené à fixer des valeurs d'entreprise quand il y a un litige entre associés, comme on va être parfois amené à travailler sur des garanties d'actifs et de passifs, hein, pour aider en fait le magistrat à trancher. Puis après, on a aussi tout l'aspect pénal, le droit pénal des affaires. Donc, tout ce qui va constituer par exemple des ABS, on va devoir, ou des délits de banqueroute, mais on va travailler sur ça.
C'est quand même un champ des possibles qui
Très
est très,
vaste,
très, très vaste. Donc,
absolument. Et très engageant aussi. Ça demande vraiment à chaque fois de se poser la question, ai-je la compétence pour le faire? Suis-je le bon expert au bon moment, au bon endroit? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous participez à la vérité judiciaire. Donc, vous avez encore moins le droit de vous tromper. Donc c'est vraiment très engageant, mais je trouve aussi que c'est un moyen de s'engager pour la société. C'est une mission d'intérêt général. Parce que, je vais vous dire tout de suite, on ne fait pas fortune en faisant expert judiciaire.
ça
C'est
pensait ma question.
chronophage. C'est
Chronophage.
chronophage.
Mais bon, au moins, il y a un intérêt,
Passionnant,
voilà, ce
oui.
côté un petit peu enquête, peut-être,
Oui,
qui.
et puis surtout, c'est que moi, intellectuellement, ça m'a énormément nourri parce qu'on ne voit que le mauvais côté des choses, hein, puisqu'on est dans un procès, donc c'est tout à fait normal. Et ça me nourrit dans mes réflexions et dans les conseils que je peux apporter à mes clients. En leur disant, attention, quand ça se passe mal, ça peut arriver jusque-là. Et je sais, puisque je le vois dans ma salle de réunion, lorsque je convoque des parties pour traiter d'une expertise judiciaire.
C'est passionnant. Et moi, ce que je voudrais aller maintenant, c'est sur la question un petit peu. bah ça y est, on a le diplôme, on lance son cabinet, c'est ce que vous avez dit, parce qu'après, il n'y avait pas de salariat ou...
Pas de salariat
ex
prolongé.
Ex-nilo, dès le départ.
Je suis partie avec un associé.
Un associé,
tout de suite, on a démarré à deux, le cabinet.
Un homme, une femme ?
Un homme.
D'accord.
Un homme qui avait 20 ans de plus que moi, donc qui a fini sa carrière au sein de notre cabinet, et qui maintenant profite d'une retraite bien heureuse avec des voyages à l'autre bout du monde. Donc, c'est l'aventure, c'est l'entrepreneuriat, c'est le recrutement, c'est aller chercher des nouveaux clients, travailler ces nouveaux clients. Et très vite aussi, puisqu'on est un cabinet d'une dizaine de personnes, donc on fait partie de ce qu'on appelle les petits cabinets ou des cabinets à taille humaine, très vite essayer de se dire en quoi on va pouvoir se distinguer. Bien, la réponse, elle vient assez vite. C'est que je me suis associée en 2000. Et très vite, je tombe enceinte et j'attends des jumeaux. Il va falloir donc que je gère cette famille qui va devenir nombreuse par la suite parce que j'ai 4 enfants. Et je me suis dit, mais moi, je ne peux pas travailler comme les plus anciens avaient l'habitude, c'est-à-dire jusqu'à tard le soir, le samedi, etc. Moi, je veux pouvoir élever mes enfants et en profiter. Donc, le numérique est pour moi la réponse parce que ça va me permettre de travailler à distance, de pouvoir... quand les enfants sont couchés, ben, terminer un dossier si je n'ai pas eu le temps de le terminer, mais pouvoir voilà, gérer les deux vies, la vie pro et la vie perso. Et le numérique est ma réponse. Un petit exemple, en 2004, donc ça fait 20 ans maintenant, le cabinet est totalement dématérialisé. Totalement. Donc aujourd'hui, quand je vois les enjeux de la profession sur le digital, bien, je m'aperçois qu'on avait forcément ce temps d'avance et on a pris des gamelles, hein, on s'est trompé à plein de moments. Mais justement, j'ai toute cette expérience qui me permet aujourd'hui d'avoir ces compétences en matière d'accompagnement dans la transition digitale. Vous l'avez cité tout à l'heure dans la sécurité des données, mais parce que j'ai été confrontée à ça il y a plus de 20 ans. Donc forcément, je suis restée très en veille sur tous ces sujets.
Est-ce que c'est aussi un côté peut-être que tu as dans la tête de plutôt chef d'entreprise, entrepreneur, que vraiment le technicien?
Absolument.
Qui aurait préféré faire le dossier?
Complètement. Complètement. Et j'ai une jeune associée qui, elle, a au moins autant que moi la fibre d'entrepreneur. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui nous permet, lorsque l'on rencontre nos clients, c'est pas le technicien, c'est pas l'expert en droit comptable, fiscal, social, etc., qui s'adresse au chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui s'adresse au chef d'entreprise. Et je reconnais aussi que le fait d'avoir un parcours double par l'école de commerce et les diplômes d'expert comptable m'ont toujours donné cette approche avant tout entreprise plus que technique. Et c'est aussi les conseils que je formule à mes stagiaires en leur disant... La réponse technique, que technique, n'est pas la bonne réponse. Il faut toujours envisager l'entreprise dans sa globalité.
Est-ce que ça c'est inné ou ça peut s'apprendre aussi, ce côté entrepreneurial?
Je pense qu'il faut quand même une petite part d'inné, ou du moins de curiosité intellectuelle.
Après, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que tu as dit que tu es parti sur l'ex nilo avec un autre associé.
Oui.
Donc c'est peut-être aussi une bonne solution. C'est rassurant de ne pas retrouver tout seul aussi.
Oui, et c'est surtout enthousiasmant. Enthousiasmant, parce que le fait de m'associer avec quelqu'un de plus âgé, c'était aussi quelqu'un qui avait plus d'expérience, qui avait du recul,
ça rassure.
Qui m'a tout de suite fait confiance, qui m'a donné les clés du cabinet qu'on avait tous les deux. Donc ça, c'est vraiment des moments très forts. On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé à lancer ce cabinet. J'ai des souvenirs formidables. Pourquoi ? Parce qu'on lançait une entreprise. Et donc, quand je rencontre des créateurs, mais je sais par quelles étapes ils passent. J'y suis passée aussi. Et je vois mon associée actuelle, qui est une fille mais formidable, pétillante, pleine d'énergie. Elle aussi, elle a cette approche entreprise. Et je pense qu'elle, pour le coup, elle est tombée dedans quand elle était toute petite parce que son père est chef d'entreprise. Donc, elle a toujours connu cet environnement. Et ça renforce encore notre approche client.
Je vais revenir sur le point où tu m'as dit « J'ai eu des jumeaux et j'en un cabinet. »
Oui.
Et là, tu m'as répondu directement « faut que je trouve une solution ». Ça va être le numérique.
Oui.
Tu t'es jamais dit, en fait, c'est peut-être trop, ça fait peur, je ne vais pas arriver à tout gérer?
Non, ça s'organise. Ça se gère et ça se gère bien. Alors, ça ne se gère pas tout seul.
Bien sûr.
Il faut bien comprendre que ce genre d'équilibre qu'il faut trouver, on ne le trouve pas tout seul. Il vous faut une famille, donc des personnes qui sont prêtes à vous aider quand vous partez en déplacement. Moi, je le dis, mes deux derniers, ils n'avaient pas un mois que je partais déjà en déplacement une semaine entière. Donc, il fallait que le père gère, qu'il soit aidé par la famille pour gérer cette semaine d'absence. C'est aussi avoir des associés qui gèrent, qui acceptent que l'on dise ben non, moi il est 18h, moi je m'en vais parce qu'il faut que j'aille m'occuper de mes enfants. Et il faut aussi avoir un environnement professionnel qui l'accepte. Et moi, je pense que c'est ça qui nous a fait énormément progresser aussi au cabinet. Je pense qu'une de mes plus belles fiertés récentes, c'est quand mon associée, qui est maman également, m'a dit, j'ai bien réfléchi, le mercredi, je ne viendrai pas travailler au bureau parce que je veux profiter de ma fille. Super, formidable.
Ah, c'est pas été, comment on va faire ?
Pas du tout, mais c'est génial parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui assume tout à fait, comme moi je l'ai fait à l'époque, mais qui assume tout à fait cet équilibre qu'il faut trouver entre vie pro, vie perso. Franchement, en termes de travail, je ne me suis jamais inquiétée en me disant est-ce qu'elle va faire plus ou moins sa part. Mais bien sûr qu'elle le fait, mais parce qu'elle-même, elle s'organise. C'est-à-dire, je pense que ces obligations que nous portons, nous autres, les femmes, parce que jusqu'à présent, c'est quand même nous
qui
portons
sûr,
les enfants, nous amènent à nous améliorer en termes d'organisation. Allez, je vais le dire, on est meilleurs que les garçons pour ça.
Oh, mais j'ai complètement d'accord.
C'est une taquinerie, Florian.
Est-ce que à ce moment-là, on peut se dire aussi, il va peut-être falloir diminuer le travail ou diminuer sa rémunération pour avoir une qualité de vie ? Ou non, je peux tout encaisser et...
Oui, dans la mesure où on peut s'organiser, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas voir ça comme des prétentions qu'il faut revoir à la baisse, au contraire. Au contraire, quand aujourd'hui, je conseille mes clients, mes chefs d'entreprise sur l'organisation de leur entreprise, je le fais toujours dans cet objectif d'efficience. L'efficience, c'est mieux que l'efficacité. L'efficience, c'est d'obtenir le maximum avec le minimum de consommation de ressources. Donc, il n'y a pas de raison de dire, bah, tant pis, je vais revoir à la baisse mes prétentions salariales, ma rémunération, etc. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans ce syndrome que l'on observe malheureusement dans beaucoup d'autres professions libérales où plus elles se féminisent, plus elles se paupérisent. Surtout pas. Il faut au contraire transformer cette situation de fait en opportunité en disant comment je vais aller chercher le meilleur. Le meilleur dans ma vie de famille, donc je vais toujours privilégier la qualité à la quantité parce que je n'avais pas le choix et fait exactement faire la même chose dans mon rôle au sein de mon cabinet, mais aussi après dans mes différentes implications au sein des institutions.
Alors dans ce cabinet, jusqu'à expert comptable, on le met en place, ça roule, il y a une étape d'après. On commence peut-être à s'ennuyer, on se dit tiens, je vais peut-être aller en politique du côté de la CNCC.
Alors,
comment ça s'est passé ?
Je ne m'ennuyais pas, je pense que c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Non, c'est plutôt du culot, c'est parce que j'ai toujours fait de l'audit, c'est vraiment un aspect du métier qui m'intéresse particulièrement, j'aime beaucoup, en fait, j'aime tous mes métiers, je l'avoue, j'aime beaucoup l'expertise, j'aime beaucoup l'audit, j'aime beaucoup l'expertise judiciaire. Mais je vois passer un appel à candidature pour une prochaine élection à la compagnie régionale des commissaires aux comptes et au culot. Ben, je réponds, je candidate. Et là, on m'explique que ça ne se fait pas tout à fait comme ça, qu'il y a des étapes, qu'il va falloir s'impliquer. Eh bien, chiche, je m'implique. Et ça a été le début d'un très long parcours où j'ai donné, parce que le vrai mot, c'est ça, c'est du bénévolat, hein, c'est du don. J'ai donné beaucoup de mon temps, de mes idées, je les ai partagées pour mes confrères, ce qui m'a permis, par la suite, d'être très impliquée dans mon syndicat, de pouvoir prétendre à des inscriptions. Alors, j'ai été élue à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Bordeaux, j'en ai été la présidente, puis j'ai été vice-présidente de la compagnie nationale. Je suis de nouveau membre du bureau de la compagnie nationale, je préside la commission prospective et innovation, mais tout ça, ça s'est pas fait sans rien, sans effort. C'est parce que j'avais envie de partager avec mes confrères mes idées, ma vision, ma projection de l'exercice professionnel. C'était aussi démontrer que c'est pas parce qu'on est une femme dans un petit cabinet en province qu'on n'a pas le droit de représenter une certaine partie de la population que sont les experts comptables. Les experts comptables ne sont pas tous à Paris, ils ne sont pas tous dans des gros cabinets. On a un mode d'exercice qui est très diversifié et on est justement riche de tout ça. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut y aller, pour ceux qui veulent y aller, il faut y aller avec l'envie. L'envie de partager, l'envie de donner. Je suis cash par moment. Mon implication dans les institutions, c'est jusqu'à 30 à 50 % de mon temps. C'est énorme. C'est du don. c'est du bénévolat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de contrepartie financière. C'est vraiment accepter que ce temps, vous n'allez pas le passer ni en famille, ni dans le cabinet, ni auprès de vos clients. Donc, c'est un effort. Alors, pourquoi je le fais ? Ben parce que intellectuellement, ça m'a permis de m'enrichir, de grandir, d'être informée de un tas de choses, de rencontrer des instances politiques les plus élevées de ce qui existe en France et en Europe. Ça m'a permis aussi de rencontrer des confrères que je n'aurais jamais rencontrés partout en France. Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir discuter avec des hommes qui ont été amenés à signer des dossiers comme Eurotunnel, par exemple, et qu'on parle d'égal à égal avec énormément de respect. Alors que moi, je suis vraiment une lilliputienne à côté d'eux. Mais voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que s'engager dans les institutions, c'est du gagnant-gagnant, mais il faut vraiment y aller avec ses tripes.
Est-ce qu'un jour, tu t'es dit, ah, le fait d'être une femme, des fois, j'étais mal positionnée, ou je ne devais pas être là, ou on me l'a fait ressentir peut-être à un moment. Ou pas du tout, tu dis, moi je suis une femme, j'y vais, j'assume.
Oh oui, alors, je dirais, dans la société française, d'une manière générale, il y a un peu de machisme, un peu de misogynie, mais voilà, je veux dire, comme dans toutes les sociétés, donc il n'y a pas de raison que dans notre profession, il n'y en ait pas. Il y en a, bien entendu. Bien entendu, j'ai malheureusement eu à souffrir de certaines remarques, de certains ragots, de certaines rumeurs, mais je m'en moque, ça glisse. Enfin, c'est pas ça qui est important. Et ma plus grande satisfaction, c'est que on me reconnaisse pour ce que j'ai fait, ce que je suis, et non pas pour une femme. Moi, je suis pas quelqu'un qui va faire du militantisme féminin à deux balles en disant il faut absolument des femmes, etc. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus injurieux que d'obtenir un poste parce qu'on est une femme, parce qu'il y avait un quota et qu'il fallait mettre une femme. Non, il faut être à ce poste parce qu'on en a les compétences et qu'on est reconnu en tant que tel. Donc oui, parfois ça peut être un peu difficile, mais aussi dans l'exercice de notre métier. Moi, j'ai le souvenir d'un client qui, au début, refusait de parler de son bilan avec moi.
Et c'est toi qui
signes ? Parce que j'étais une femme, oui. Non, mais vous avez un associum, c'est pas... Je disais, mais c'est moi qui suis votre dossier. Oui, mais ça me gêne de parler argent avec une femme. Ça, c'était nos premiers entretiens. Mon meilleur souvenir, c'est quand après, et on en a rediscuté, et qu'il m'a dit, mais j'étais débile à cette époque. Pourquoi je disais ça ? Parce qu'en fait, il s'est rendu compte, en fait, il ne s'adressait pas à une femme, il s'adressait à un expert comptable. Et peu importe qu'elle porte des jupes et des talons hauts, il s'en moquait finalement, ce qu'il cherchait, c'était la compétence, c'était des conseils.
Exactement, et je pense que c'est bien que tu finisses sur cette phrase en disant, on est expert comptable et on s'en moque d'être un homme ou une femme, c'est l'expertise qui va apporter. Et...
Absolument, c'est la compétence professionnelle.
Mais ce n'est pas simple, des fois, on a de l'émotion et de se dire... C'est moi qui l'attaque. Il faut mettre de côté.
Oui, mais on va avoir la même chose aussi. Ça va te faire sourire, mais quand j'ai passé mon DEC, à l'époque, on avait non pas un QCM sur la déontologie, mais c'était une épreuve à l'oral.
Oui, l'épreuve d'oral, oui.
Première question de mes examinateurs. N'êtes-vous pas trop jeune pour être expert comptable ?
Oui, ils n'avaient pas trop le droit, je pense. Mais...
J'ai trouvé la question intéressante. J'ai répondu. La deuxième question, est-ce que c'est un métier qui est compatible avec le statut de femme ? Aujourd'hui, bien entendu qu'on n'aurait plus de questions. De toute façon, c'est des QCM, donc ces questions n'existent plus. Mais soit on le vit comme une agression, et ce qui n'était pas du tout mon cas, et moi j'ai pris ça plutôt comme un challenge, leur démontrer que non, pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire est la démonstration que non, on peut parfaitement être un très jeune expert comptable et de plus être une femme sans que ce soit un frein à une carrière qui finalement est très riche.
C'est une très belle carrière et justement, tu vas nous donner un petit peu tes inspirations, tes mentors. Quelles sont les personnes ou les événements dans ta vie qui t'ont inspiré pour arriver jusque-là ?
Alors, je n'ai pas forcément de mentor en tant que tel. Je garde ce souvenir avec plein d'étoiles dans les yeux de mon stage. Franchement, les quatre associés se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast, m'ont beaucoup offert pendant mon stage, beaucoup d'opportunités. Il suffisait d'être source de propositions. Moi, il est vrai, quand je suis arrivée dans ce cabinet, j'étais déjà très à l'aise avec l'informatique et surtout pas douée du tout avec une calculatrice. Je dois le reconnaître. Et donc, quand il fallait faire une bande machine, et oui, les plus jeunes ne le connaissent pas, mais nous, on a fait des bandes machines pour valider des soldes de compte. Il me fallait 5-6 tentatives pour arriver au même total. C'était juste une catastrophe. Et alors que quand je faisais cette bande machine sur Excel, forcément, le résultat était juste du premier coup. Donc, je suis allée voir un des associés en disant « Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que toutes vos feuilles de travail, qui sont aujourd'hui les feuilles de papier que l'on remplit à la main, je vais mettre moi sur Excel. Voilà, on va être gagnant-gagnant. Vous, parce que je vais passer moins de temps sur les dossiers, et moi, parce que franchement, faire des bandes machines, c'est pas comme ça que je vois mon métier. Il m'avait dit OK, puis avec qui s'est intéressé un peu à ce que j'ai fait, parce que je ne me suis pas contentée de faire des tableaux sur Excel, c'est que j'avais organisé tout un dossier de travail sur Excel, avec les questions, les réponses, etc., remplissage automatique, en fonction de mes tableaux, ça proposait les OD. Et là, on est en 96, d'accord ? Et, mais il a trouvé ça intéressant, et il m'a dit, mais plutôt que de le garder pour vous tout seul, Nathalie, ça serait bien de partager au sein du cabinet. Et ça a été l'une de mes plus belles expériences, c'est qu'on était de cinquantaine dans ce cabinet. J'ai été chargée donc, de concevoir les dossiers de révision pour le cabinet, donc d'interviewer tous les associés pour savoir comment, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient, etc. Ensuite, d'évaluer le niveau sur Excel de tout le monde, y compris des associés, et enfin de former tout le monde par groupe de niveau. Et ça, franchement, c'est une expérience super, parce que ça veut dire que les associés ont accepté ce qu'on appellerait aujourd'hui du reverse mentoring, c'est-à-dire qu'une plus jeune, qui ne connaissait pas forcément grand-chose au métier, vienne leur apporter quelque chose. Et ça, toute ma vie, en fait, ça m'a suivie. Et c'est vrai que j'ai cette connotation d'adorer faire des outils. Tu as cité tout à l'heure Cyber Audit, mais depuis que je préside à la commission Prospective Innovation, j'ai participé, j'ai initié, j'ai collaboré sur la production de beaucoup d'outils. Alors, Cyber Audit, RGPD Audit, mais aussi Tax Audit, qui fait la mission d'examen de conformité fiscale. Il y a eu le DIAG RSE, il y a Piste Audit qui vient de sortir. Là, on vient de sortir PAC Audit, donc qui est l'application qui va permettre de réaliser des missions d'audit donc sur une plateforme. J'en oublie qu'il y a SmartFake Plus. Enfin, voilà, toute une série d'outils. Je suis convaincue que c'est aussi le rôle des institutions, qui est d'aider les cabinets qui sont plus petits en taille, qui n'ont pas forcément les ressources hommes, pour faire des développements, pour proposer des outils. Et là, je reconnais qu'on a cette chance au sein de la compagnie nationale, c'est que je peux m'appuyer sur une équipe de développeurs. Donc, au sein de ma commission, on travaille des gens du métier, des gens de l'informatique, donc les développeurs. On phosphore tous ensemble et on fabrique un outil, et on le produit. Et comme on est, nous, du métier, bien, on sait ce qui les intéresse, ce qui est nécessaire pour l'exercice professionnel ou ce qui pourra devenir demain un outil indispensable pour la profession.
Il y a une chose qu'on pourrait relever, c'est qu'ils t'ont fait confiance un petit peu. Mais surtout, c'est toi et tes forces de proposition.
Toujours.
Tu t'es jamais mis de dit à la place du petit jeune qui arrive dans le cabinet, il ne connaît pas tout. Moi, je vais mettre mon petit grain de sel et ils vont peut-être m'écouter. Pareil pour les élections, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es proposé au culot, tout ça.
Au culot, mais en fait, je ne suis pas dans l'incantation, je suis dans l'action. Je pars du principe, et c'est vraiment, si je devais donner un conseil aux plus jeunes, c'est qu'il faut prendre son destin en main, faut construire son avenir, il ne faut pas attendre que les autres le dictent pour soi. Si on a envie, il faut l'exprimer. C'est-à-dire, parfois, je vois des gens qui sont un peu trop passifs, qui attendent et qui pleurnichent. « Ouais, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. » Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que ça fait pour aller le chercher ? Ben, si tu attends, tu n'auras rien. Il faut aussi avoir cette démarche proactive, aller de l'avant, donner, s'investir, se montrer. Alors, les clients, ils ne viennent pas uniquement parce qu'on a posé une plaque, qu'on l'a accrochée sur un mur, c'est aussi parce qu'ils nous reconnaissent des compétences, etc. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un expert comptable et un autre vis-à-vis d'un client ? Ben, c'est la manière dont ça va se passer dans le relationnel. Le client, il aime plutôt quelqu'un qui est dynamique, qui est source de proposition, quelqu'un qui est passif, qui nous commente bêtement des chiffres qui sont inscrits sur une feuille de papier. Hein, donc, c'est vraiment ça. C'est le conseil, c'est d'aller de l'avant. Alors, bien sûr, parfois, ça peut être agaçant pour les autres que de se dire « ouais, bah, toujours en train de la ramener, toujours en train de proposer des choses ». Donc, il faut aussi être en capacité d'entendre le non. C'est trop tôt, on n'a pas les moyens, ou c'est pas le bon moment, ou c'est pas la priorité. Mais voilà. Mais il faut aller au bout de ses idées. Voilà, pas s'arrêter. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui me projette vers l'avant.
Ça me permet de te dire, donc, tu as toujours été au culot et proposé des choses, acteur. Tu as quand même eu des échecs. Tu as quand même eu des choses qui t'ont marqué peut-être et que tu aurais mais qui t'ont forgé.
Oui, mais je pense que tout le monde a à un moment des déceptions. Des déceptions sur des personnes où on pensait que l'on allait pouvoir travailler ensemble, s'appuyer dessus, et puis finalement, bah, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Mais moi, je suis quelqu'un qui va toujours essayer de transformer un mauvais événement en opportunité. pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est si grave? Puis finalement, rester sur un échec, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'échec? Si ce n'est qu'une occasion supplémentaire de recommencer et de retenter sa chance, finalement. Toujours positiver. On avait, avec mon associé, on est vraiment très branchés numérique, on avait beaucoup investi de temps et d'énergie sur un outil qui finalement s'est sorti du marché. Alors on aurait pu dire, ben voilà, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on travaille dessus. Mais j'ai dit, mais c'est formidable. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on voulait changer, mais on ne se donnait pas le coup de pied aux fesses nécessaire pour le faire. Ben là, on n'a plus le choix. Donc on va y aller. Et on a relancé de nouvelles dynamiques au sein du cabinet, retrouvé un autre outil, un nouveau mode de fonctionnement, d'échange, trouver des solutions qu'on n'avait pas avec notre précédent outil pour pouvoir les offrir aux clients. Voilà, moi c'est comme ça que j'essaie toujours de regarder, je regarde toujours le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, ça dure quelques instants, alors c'est quelques minutes, quelques heures, quelques jours, peu importe. Je peux être déçue, ça m'arrive très souvent, hein, d'événements, mais c'est pas grave. Allez, on repart de l'avant et c'est l'essentiel. La vie est trop courte.
C'est énergivore un petit peu quand même de gérer un cabinet, de gérer tout ça.
Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie.
Mais il y a un retour.
Oui, beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Là, à la compagnie nationale, tu l'as dit, on est donc membre du bureau, on est 8. Tout petit bureau, en fait, quand on regarde par rapport à la masse de travail. Et donc, on a chacun des grosses responsabilités au sein de ce bureau et beaucoup d'actions à mener. Quand je vois l'entente qui existe entre chacun des membres, le respect. C'est-à-dire que c'est vraiment un homme, une voix. Tout le monde peut s'exprimer, quelle que soit la taille du cabinet, quelle que soit notre expérience. On a tous le droit de s'exprimer, on s'exprimera tous sur les points, on partagera, on confrontera nos opinions. Bien ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses. C'est-à-dire que même si j'ai un petit cabinet, que je suis une femme, que je viens de région, eh bien j'existe aussi. Et je peux représenter cette partie-là des professionnels qui pèsent aussi dans la profession finalement. Hein, donc moi, je n'aime pas trop le débat, les bics, c'est les méchants, les petits, c'est les victimes, etc. Non, tout le monde a sa place. Moi, je considère que sur certains points, mon cabinet va être bien plus agile et va pouvoir proposer des choses qu'un plus gros cabinet ne pourra pas parce que c'est un peu comme un cargo, il y a des effets de latence, etc., que moi je n'ai pas. Donc on a chacun à trouver notre place et on a chacun à s'enrichir des expériences des uns et des autres. Donc ouais, c'est une super expérience aussi que d'être élu et ça m'apporte énormément de choses dans mon exercice professionnel.
Je voudrais revenir sur la partie un petit peu quand tu as lancé ton cabinet et que là, il a fallu prendre ta casquette de commercial. Comme tu l'as dit, on a le côté technique, on a le diplôme, mais... comment je me lance, moi, à Bordeaux, jeune femme qui vient d'avoir le diplôme, pour trouver des clients?
Ce qui marche bien, moi, ce qui a bien marché, c'est le bouche à oreille des clients, justement. Le fait qu'un client satisfait, ben, il en parle et il ramène d'autres clients. Ça a été aussi de s'investir hein, dans différents réseaux, de se faire connaître. Ça peut être par l'intermédiaire de la formation, notamment, c'est vrai que quand on forme des chefs d'entreprise sur certains sujets, ben ça peut les amener à leur donner envie de venir au cabinet. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir souffert de me dire bon voilà qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour trouver des clients, parce que assez naturellement voilà ils sont arrivés. On les a. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est que c'est pas en restant derrière son ordinateur dans son bureau qu'on va avoir des clients. Alors je dis pas qu'il y en aura pas. Je dis que c'est plus compliqué. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est qu'on a un métier qui est ouvert. Ouvert sur l'extérieur, ouvert sur la relation humaine. Et c'est bien parce qu'on sort de nos cabinets, qu'on va trouver des clients, qu'on va se faire connaître et reconnaître. Puis aussi, faut pas hésiter à le faire, c'est utiliser ces réseaux. Je te l'ai dit tout à l'heure, on était dans un groupe de stagiaires très soudés. Forcément, on s'est renvoyé des ascenseurs. Forcément, quand vous avez une très bonne expérience avec vos anciens maîtres de stage, ben forcément, vous vous renvoyez aussi des dossiers. C'est-à-dire, tout ça, ça a participé au développement de mon cabinet.
Et puis, il y a certaines, comme tu disais, tu as des expertises sur le côté sécurité.
Absolument.
Peut-être que tu as mis ça en avant et ça t'a permis d'en ramener.
Tout à fait. Mais il est clair que l'image de cabinet très numérique, très en pointe, et notre capacité aussi à proposer énormément de solutions, ont fait qu'on a des clients qui ont aussi cette typologie, qui sont à la recherche de cabinets qui ne soient pas traditionnels. Et d'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire, c'est que moi, j'ai des clients un peu partout en France. ils sont pas tous sur Bordeaux. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, le fait d'avoir dématérialisé très vite, très tôt ce cabinet, ça me permettait de travailler depuis n'importe quel endroit en France, mais aussi d'avoir des clients n'importe où en France.
C'est bien que tu aies cette vision de chef d'entreprise. Je lui dis, je ne vais pas me cantonner, excusez-moi, à Bordeaux et avec le numérique d'en faire une force.
Exactement. Et puis, j'ai ce souvenir, il y a maintenant entre 10 et 15 ans, quand j'ai commencé à bien mesurer l'impact de la transition digitale. Alors, on va dire, ça fait 30 ans qu'on en parle, etc. Mais là, oui, on voyait quand même vraiment arriver beaucoup de choses. Moi, je voyais des cabinets qui étaient à la traîne, qui avaient du mal encore sur les process totalement dématérialisés. Je voyais aussi se faire tout et n'importe quoi en la matière. Mais je me disais, mais quand j'ai démarré dans la profession, on avait à cœur le soir quand on partait de laisser les bureaux propres, on rangeait les dossiers dans les armoires, etc. Pourquoi? Ben parce qu'on avait appris qu'il fallait pas laisser traîner les choses. Hein. On travaillait quand même sur des données confidentielles. Et par contre, aujourd'hui, sous prétexte que c'était des informations qui étaient dans un ordinateur, ben ces mesures de sécurité basiques, physiques qu'on observait, elles n'existaient pas, au prétexte qu'on était sur des données dématérialisées. Ah, je me dis, mais c'est fou ça. Et je me suis impliquée dans cette dimension sécurité. Et ce qui fait que ça fait 15 ans que je cherche à sensibiliser l'ensemble des acteurs économiques, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, des dirigeants de collectivités, des pouvoirs publics, sur la nécessité que tout le monde ait un niveau minimum d'hygiène en la matière, d'hygiène pour pouvoir prétendre à une certaine cyber-résilience. Alors à l'époque, il y a 10 ou 15 ans, on me voyait comme une folle, comme un alien, on voyait de quoi elle nous parle, etc. Très tôt, j'ai développé un outil que j'ai partagé avec la profession, je l'ai donné. Et il figure encore, je le retrouve dans certaines instances. Et puis, c'est monté en puissance, des nouvelles compétences sont arrivées, j'ai noué des contacts avec la police, la gendarmerie, l'ANSSI, etc. pour comprendre qu'on évoluait tous dans le même sens, qui était de prétendre à une certaine sécurité, préservation des données, des data d'une manière générale, et pas que les data financières. Je suis allée au bout de ma démarche en créant l'outil, un cyber audit, en donnant des conférences, en faisant des formations, et je suis même réserviste de la police nationale sur le sujet cyber. Pour continuer à sensibiliser tous les acteurs économiques, y compris les petites entreprises. Pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être une cible pour être une victime. Encore, tout le monde peut être concerné. Et donc, c'est bien en faisant monter le niveau de maturité de tout le monde qu'on va mieux se préserver. Et je reconnais qu'on a organisé la semaine dernière la troisième journée de la confiance numérique où on a fait au cours de la matinée un rétex sur ce qui s'était passé avec Coaxis. Joseph Vegas était là. J'avais une partie de mon réseau qui est venue, gendarmes, police et cyber, le cybercampus de Nouvelle-Aquitaine, où on a vraiment essayé d'expliquer ce qui s'est passé et comment finalement ils s'en sont plutôt bien sorti. Et quand je vois tous les retours que j'ai eus des gens qui étaient dans la salle, qui ont échangé, etc., je me dis, banco, on a réussi. On a réussi à démystifier ce sujet de la cyber-résilience et montrer qu'en fait, quand un hébergeur est attaqué, bah, ceux qui sont hébergés, ils râlent, ils pestent parce qu'ils n'accèdent pas, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas compris ce que c'était que l'hébergement sur un cloud. Donc, il y a aussi toute une éducation. Et là, je pense que les cabinets d'expertise comptable sont un peu en retard. Pour comprendre les risques liés à leur choix organisationnel. Et allez, quelque part, je pense que c'est un projet pour moi à très court terme d'arriver à développer pour chacun des cabinets un truc pour que les plus petits puissent se dire « Mais comment je fais, moi, concrètement, pour me poser les bonnes questions et améliorer ma maturité sur le sujet ?» C'est mon petit challenge, je pense, d'ici la fin d'année.
Il y a quelque chose qui m'a... Pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir à ça et j'avais en fond, pourquoi cette envie de partager? T'as toujours cette envie de partager alors que ça pourrait être une force pour toi l'informatique en disant je le garde pour moi et c'est un avantage concurrentiel pour mon cabinet.
Mais ça l'est aussi.
Mais ça te prend du temps et tu le fais bénévolement.
Oui, mais parce que je pense que c'est dans mon ADN. Ça me permet aussi, je ne suis pas innocente, ça me permet aussi de développer ma notoriété sur ce sujet. Donc je ne suis pas perdante. Moi, j'ai la reconnaissance aussi de mes pairs. Mais je pense qu'il y a certains domaines où il faut se dire qu'on a plus à gagner à partager qu'à conserver. Je vais illustrer mes propos. Quand j'ai démarré, j'ai créé mon cabinet en 2000. En 2000, tous les éditeurs avaient des systèmes fermés. Si on était chez Cégide, j'ai rien contre Cégide, d'accord, mais je donne un nom parce qu'il est très connu. Si on était chez Cégide, bah, sortir tes dossiers de Cégide pour aller ailleurs, sur Sedge par exemple, c'était la croix et la bannière, il fallait ressaisir beaucoup. Il n'y avait pas de pont, d'accord. Aujourd'hui, les éditeurs ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils sont ouverts. C'est-à-dire que l'éditeur qui est capable de proposer des interconnexions via une multitude d'API pour agréger des services complémentaires à ceux qu'il propose, c'est celui qui se vendra le mieux. D'accord ? Donc en fait, on est passé d'un système fermé, de propriété privée, réservé, c'est à moi, à quelque chose d'ouvert, l'open data, on en parle énormément, mais on s'aperçoit que c'est ça, que c'est le domaine le plus riche. Quand on voit la communauté GitHub sur le partage des lignes, des codes sources, tout ça, ça, on pourrait dire bah, pourquoi ils ne gardent pas leur code source, pourquoi ils ne gardent pas leurs lignes de code pour eux, finalement, si elles sont si. Mais c'est parce que ça fait évoluer la communauté et tout le monde s'enrichit. Et parce que moi, je dépose des informations que je vais pouvoir aussi en récupérer, bah, j'acquiers aussi des choses que je n'aurais pas eu les moyens de m'acheter. Donc c'est pour ça que je suis dans cette. Alors peut-être que je donne plus que je reçois, c'est même clair. Mais ça ne me gêne pas finalement.
C'est un partage. On va partir sur le présent. Donc, moi, il y a une petite phrase que je voudrais que tu me dises. C'est à quel moment tu t'es dit « Ah, ça y est, là, ma carrière pro, perso, bah, c'est parfait. Ça y est, j'ai réussi mon objectif de vie. »
À quel moment ? Alors, je ne sais pas s'il y a eu un moment déclencheur. Je pense que ça va être plutôt le fait qu'à un moment, bah, on se dise « Ouais, voilà. » Je suis reconnue. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce client qui ne voulait pas parler à une femme et puis qui finalement bascule et se dit ben, « je pars à mon expert comptable ben, ». Ça, c'est une petite victoire personnelle. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme illustration ? Alors, ça va faire rire, c'est une anecdote. D'accord ? Il ne faut pas la prendre au premier degré. Mais je te l'ai dit, j'ai présidé la compagnie de Bordeaux. Et à ce moment-là, quand je préside la compagnie de Bordeaux, l'ordre est présidé aussi par une femme. Nous avons la première bâtonnière pour le barreau de Bordeaux. Chez les notaires, c'est une femme. Chez les huissiers, c'est une femme. Et présidente de la cour d'appel, c'est une femme. Le PG, ça restait un homme, mais d'autres procureurs, c'était des femmes. Et cour administrative d'appel, c'est une femme. Bref, sur toutes les audiences solennelles, les réunions protocolaires, etc., les premiers rangs sont occupés par des femmes et ça saute aux yeux. C'est l'une des premières fois que l'on voit ça. Au début, on se regardait entre nanas un peu comme ça, en se disant, tiens, c'est qui, c'est elle, tiens, mais je l'ai déjà vu, etc. Et puis, au bout d'un moment, ben, on fait un peu plus ample connaissance, on va déjeuner ensemble et puis ben, ça dépasse ce stade-là. On devient proche, on devient amis et ça perdure. Ça perdure parce qu'on continue de se contacter. Certaines sont parties à la retraite. Mais dans le cadre de ces reconnaissances, ben, on organise des dîners. Et puis, il y a des dîners protocolaires qui viennent s'intercaler. Et j'ai le souvenir de certains de ces dîners où nos conjoints sont quand même conviés. Donc c'est donc le prince consort. Alors, consort, on l'écrit comme on veut, en deux mots ou en un seul, je te laisserai choisir. Donc voilà, nos hommes se retrouvent avec ces nanas qui discutent entre elles. Hein. Et ce qui m'avait fait beaucoup rire, et mon époux à l'époque, je n'en avais pas pris ombrage, heureusement, c'est que sur les petites étiquettes que nous avons sur les assiettes pour savoir à quel endroit nous sommes placés, mon mari porte mon nom et il se trouve que moi, je travaille avec mon nom de jeune fille. Et donc ça, j'ai trouvé très drôle parce qu'en fait, il y avait une vraie reconnaissance de se dire ben, j'étais bien, moi, en tant que telle, reconnue dans mes fonctions.
Ah, je t'ai dit, là, c'est cool quand même.
Ah là, c'est drôle, absolument, c'est drôle. Voilà, donc en fait, on va chercher la reconnaissance là où on veut aussi. Mais je pense qu'effectivement, moi, ce qui m'a le plus satisfaite en me disant, ouais, là, j'ai franchi une étape, c'est quand ton téléphone sonne parce qu'on t'appelle parce que je vous ai vu dans telle interview, ça serait bien si vous veniez là. L'exemple, il y a deux ans de ça, on m'appelle pour venir au Bifor des assises de la cybersécurité. C'est le NEC plus ultra en matière de cyber et on m'appelle moi. Ouais, on voudrait vous voir parce que on s'interroge sur la cotation externe en matière de risque cyber et on a vu que vous avez fait quelque chose. On voit que vous intervenez sur ça. Ben, ça, c'est de la reconnaissance. Et ça, je le vis un peu tous les jours au quotidien quand même. Des petits trucs.
T'as pas eu ce côté un petit peu peut-être syndrome de l'imposteur quand t'as les grands qui arrivent et tu dis « Ouais, moi, je suis un tout petit cabinet à Bordeaux. Est-ce que ça va le faire ?»
Ouais, j'aurais pu. Absolument. Il y a par moments, je ne sais pas que je n'ai pas eu des périodes de doute ou la trouille au ventre ou à partir sur des trucs en se disant « Mais est-ce que je vais tenir la route ?» Ben, il arrive un moment, on va dire « Attends, qui ne va pas les mains dans les poches. Tu as bossé, tu t'es énormément documenté, tu as appris, tu as écouté, tu as échangé, tu as des choses à dire. Je n'ai jamais dit que je détenais la vérité, mais j'ai des choses à dire, j'ai des opinions à exprimer. Et j'ai un de mes confrères qui est le président actuel du DEIP qui me racontait une anecdote qui disait que la première fois qu'il m'avait vu, il m'avait vu sur scène. C'était les Échos qui organisaient une manifestation au mois d'octobre sur la cyber. Et sur scène, il y a notamment Guillaume Poupard qui était le patron de l'ANSSI. Et je parle cyber, je défends mon approche, etc. Et il était convaincu au départ que j'étais dans un grand cabinet pour. Et après, quand il a découvert qu'il était, on a fait connaissance 2-3 ans plus tard. Donc vraiment, il me dit, bah écoute, c'est la première fois que je te voyais et ça a fait waouh parce que ben j'y suis allée telle que j'étais avec mes convictions, mon engagement, mes idées, mes envies.
Il faut rester soi-même.
C'est ça.
Donne-nous des conseils un petit peu sur ton organisation, ton emploi du temps actuel entre ta période fiscale, tes expertises judiciaires, ton commissariat et la CNCC. Comment tu fais pour tout gérer?
Alors, j'essaie de faire au mieux. Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours. Par moments, ça coince un peu. J'essaie de mettre en œuvre un principe qui m'avait été donné au tout départ. Quand j'ai démarré dans la profession, c'est jamais se charger à 100%. Comme on a déjà des métiers à 130 ou 150%, ben c'est mort. D'anticiper. En fait, moi, le maître mot, il est dans l'anticipation. Alors, ça peut être pénible pour tout le monde, parce que c'est vrai que je demande beaucoup. J'essaie de planifier beaucoup de choses à l'avance. Pourquoi ? Ben parce que j'arrive de Bordeaux pour venir sur Paris, c'est des trains à réserver, c'est du temps de transport. Alors même si j'essaie d'utiliser tous les temps morts pour pouvoir avancer sur des choses, et le numérique m'aide énormément, moi quand j'ai 2h15 de train, c'est 2 heures de travail. Et même dans de très bonnes conditions, puisqu'en fait je ne suis pas dérangée par le téléphone ni par les mails, je suis vraiment dans ma bulle et donc j'avance bien. Donc l'organisation c'est ça, c'est de l'anticipation, c'est garder des espaces vides, dans un agenda, parce que de toute façon, il est vide le lundi, mais le jeudi, c'est déjà, il est plein. D'essayer de ne pas minimiser la charge de travail de certaines choses. C'est aussi ne pas être seul, ne pas travailler seul. Voilà. Être en capacité de demander de l'aide à des personnes ou de partager une charge de travail. C'est aussi faire grandir. C'est-à-dire que moi, mes collaborateurs, au-delà du fait sont là pour apprendre le métier, c'est aussi les faire grandir. Eux, ils ont un intérêt, c'est de monter en compétences. Et moi aussi, j'ai un intérêt, c'est parce qu'effectivement, s'ils montent en compétences, ils vont pouvoir faire d'autres choses ou mieux. Et donc, c'est des choses que je n'aurais pas moi à faire. Donc vraiment, ça me demande de la vision, de partage, de l'organisation et garder le plaisir. On n'est jamais aussi bon que quand on fait les choses avec plaisir. Pas toujours de la passion, hein, pas toujours passionnant de faire les choses, mais avec du plaisir. Plaisir parce que je vais retrouver mon associé que je n'ai pas vu depuis 3-4 jours et je sais qu'on va papoter, qu'on va discuter, qu'on va partager des choses sur la stratégie du cabinet. Plaisir de retrouver les collaborateurs, plaisir de voir les clients, plaisir de venir à la compagnie nationale. Et voilà. Le jour où le plaisir n'est plus là, on arrive dans une sorte de routine, on a moins envie, on va mettre moins d'énergie, on va, voilà, tout doucement, ça va faire... Et donc, c'est là que ça fonctionne plus bien. Donc, je garde vraiment en tête ça. Tant que j'ai le plaisir, ça va le faire, ça s'organise. S'il y a moins de plaisir, ben je paramètre dans ma tête déjà une sortie sur ce sujet. En disant, voilà, c'est des choses que je ne ferai plus parce que je n'ai plus de plaisir.
Tu es en mode projet. Oui, est-ce que tu aurais eu ce même plaisir si tu serais rentré associé sur un cabinet, genre, sans que tu aies besoin de le créer, tout ça?
Peut-être. Peut-être si on m'avait confié les projets. Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le cabinet où j'ai fait mon stage. Très vite, il y a le projet de développer le dossier de révision pour le cabinet. Ensuite, prendre la direction du pôle audit parce que ben, il fallait structurer, organiser. Ils achètent un logiciel, il faut dégrossir, etc., former des équipes d'audit. Toujours. J'ai toujours été en mode projet sur toutes mes expériences. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me définit parfaitement.
Et ben, je voudrais que tu m'accompagnes pour la nouvelle génération, ceux qui vont être... peut-être à ta place, pour ceux qui vont avoir le diplôme bientôt.
Il nous en faut beaucoup pour nous remplacer.
Quel conseil tu donnerais à celui qui veut suivre ton chemin? Ou à la femme qui veut suivre ton chemin?
Prendre son destin en main. Pas attendre les autres, mais être vraiment proactif. Y aller avec de l'envie, du talent. Pas de fumisterie. Ça, c'est quelque chose qui m'exaspère. Voilà, des gens qui vont pas rechercher... qui vont pas se faire un peu de mal. Enfin, je suis sportive, donc l'entraînement, c'est aussi aller chercher un peu plus loin. Hein. Donc, c'est pas un entraînement si on n'a pas transpiré, si on n'a pas eu mal aux jambes, etc. Donc, je sais que moi, quand j'ai démarré, je veux pas tomber dans les jeunes maintenant, ça vaut plus rien. C'est pas ça du tout mon discours. Mais je sais que quand j'ai démarré, parce qu'on n'avait pas tous ces outils numériques, on travaillait sur du papier, donc faire des recherches, c'était quelque chose de compliqué. Mais en même temps, ça nous formatait aussi en termes de réflexion. Quand on avait une question, on travaillait la question, on était source de propositions et on validait la réponse avec notre N plus 1. Aujourd'hui, c'est facile de trouver des réponses. Mais je m'aperçois que souvent, on a perdu le sens de la question. On ne sait plus se poser les bonnes questions. D'accord ? On ne prend plus de recul. Ça manque de relief. Donc ça, c'est vraiment, si j'avais un conseil, ne vous précipitez pas. On a un métier qui peut très vite nous mettre la tête dans le guidon. Pour y arriver, pour continuer à garder du plaisir, de temps en temps, faites un pas de côté. C'est stop. On respire, on réfléchit. Je fais un pas de côté, je regarde différemment les choses. Et alors, idéalement, bien entendu, ne jamais rester seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être tout seul en profession libérale. Ce n'est pas ça mon sujet. Quand je dis ne restez pas seul, c'est cultiver vos réseaux. Ceux qui étaient stagiaires en même temps que vous, vos anciens collègues, vos anciens employeurs. C'est aussi impliquez-vous dans les syndicats, dans les institutions, dans les associations techniques, dans les groupements, dans ce que vous voulez, mais ne restez pas seul. On est un métier qui est devenu tellement complexe que rester seul, je ne vois rien de pire en la matière. Et c'est vraiment au travers de l'échange formel ou informel qu'en fait, on va garder ce talent, ces compétences que l'on a et que l'on peut servir à nos clients.
Est-ce que le socle familial, c'est aussi ce qui t'a permis d'arriver là où tu en es ?
Clairement. C'est un équilibre, c'est un pilier. Pour moi, c'est mon premier pilier, la famille. Je pense que ça a toujours été, quand j'ai pu avoir des coups durs professionnellement ou des moments de découragement, de déception, il suffisait que je regarde du côté familial en me disant, mais après tout, c'est ça le plus important. Il y a pas mort d'homme, mais c'est la famille qui est importante, ils vont bien, on a plaisir à se retrouver. Bon, allez, ça permet de relativiser les choses, absolument. Et d'ailleurs, ils sont toujours prioritaires.
C'est bien de le rappeler, ça. On parle de ton futur. Quels sont tes projets pour cette année ?
Cette année.
Tu nous as parlé d'un outil, déjà.
Oui, voilà. Je vais dire, ben, s'il y en avait qu'un, ça serait bien. Non, cette année, oui, j'ai plusieurs projets. J'ai des outils à terminer. J'ai des outils à lancer aussi, hein, quelques-uns. Là, on est en train de travailler sur l'époque, mais après, il va falloir les lancer. Avec mon associé, on s'est organisé différemment. On arrive à se voir plus souvent, parce qu'en fait, elle est aussi souvent en déplacement que moi, elle est très impliquée aussi. Donc, on s'est fixé des nouveaux modes de rendez-vous et que j'adore. Et on a des envies sur des nouvelles missions qui sont un peu extérieures à la profession, qui sont connexes, notamment sur tout ce qui va être la transition digitale, la démarche RSE, accompagner les entreprises dans la durabilité, mais aussi on a identifié quelques collaborateurs qu'on veut vraiment faire monter en compétence sur la data visualisation. Bref, on a plein de projets au sein du cabinet. Alors ça c'est une nouvelle jeunesse, j'adore. Je m'éclate. Donc ça va dépasser l'année. Hein. Je suis quand même assez prudente sur les choses. Et puis, j'ai beaucoup parlé de mes engagements institutionnels, mais on est aussi sur une année d'élection. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il va falloir que je me pose d'ici quelques mois pour savoir je remplis pas, pour faire quoi exactement. Donc ça, c'est des éléments qui nécessitent de faire ce fameux pas de côté, de regarder et pas rester pour rester, s'accrocher. Voilà, j'ai pas le syndrome du bulot sur son rocher.
Et dans 10 ans, tu te vois comment ? Maintenant.
Alors j'aurais aimé
comme un bulot ou pas ?
Ah non, j'aurais aimé te répondre. Bah, écoute, allongé sur une serviette, face à la mer. Bon, ça sera un peu tôt encore. Non, mais dans 10 ans, j'espère que je serai vraiment dans l'accompagnement, la transmission du cabinet. Voilà. C'est difficile à 10 ans près de dire. Je vais vendre quand je vais prendre ma retraite. Ça peut être avant. Dire ça, c'est
pas. Tu te vois ralentir quand même ?
Travailler différemment. Alors, ralentir, c'est pas forcément le mot, c'est faire les choses différemment, faire d'autres choses. Mais de toute façon, ça fait plus de 5 ans maintenant que je dis que notre métier va vraiment beaucoup évolué. Moi, je dis à mes collaborateurs, oubliez le débit crédit, ça c'est mort. Ça fait 5 ans que je le dis, mais je pense que je n'ai pas tort. Je pense que dans 10 ans, j'espère que j'aurai réussi à faire en sorte de ne pas avoir de comptable au sein du cabinet.
Ben, c'est un beau challenge.
Je pense que c'est effectivement un beau challenge. Et puis, avoir réussi à ouvrir sur ces nouvelles missions et faire en sorte d'avoir pu œuvrer aussi au sein de la profession pour que tous les cabinets, en fait, en soient arrivés à cette étape-là et que peut-être, et là, ça va me permettre de reboucler sur ce que tu disais au départ, peut-être que dans 10 ans, une petite fille ou un petit garçon de 7 ans ait envie de devenir un jour expert comptable parce que ça ne sera pas l'image qu'on pouvait avoir il y a encore 5-10 ans d'un métier un peu tristoun, un peu sinistre, qui sent la poussière, etc. Mais au contraire, comme étant des métiers très ouverts sur l'humain.
On a oublié un projet à court terme, là, tu m'as dit en off, le marathon.
Oui, bien sûr, il faut que je me trouve un marathon pour cette année, parce que c'est d'habitude, à cette période-là de l'année, je sais déjà quel marathon je vais courir. Là, je sèche un peu, parce que je voulais faire Tokyo, mais Tokyo, je n'ai pas eu de place. Toute confidentialité, je me suis inscrite à différents tirages au sort pour pouvoir faire le marathon des Jeux Olympiques. Il y a des tirages au sort qui existent, mais bon.
Parce qu'il y a trop de monde, en fait.
Oui, il y a beaucoup de candidats pour peu de place. Donc, bon, je ne sais pas si la chance va me sourire. Et si ce n'est pas ça, je vais certainement faire un marathon sur la fin de l'année. Bon, voilà. Moi, je suis plutôt sur les marathons de l'automne. Voilà.
New York, tu l'as fait déjà ?
C'est le plus beau du monde.
C'est vrai ?
C'est le plus beau du monde.
Devant Paris ?
Oui. Ah, New York, c'est une ville exceptionnelle pour accueillir des événements sportifs. Il n'y a pas 3 mètres sur un parcours de 42 km. Il n'y a pas 3 mètres sans qu'il y ait du public qui vous encourage. C'est juste fabuleux. Et New York, ça a été mon premier marathon. Et c'est pour ça que je n'ai jamais arrêté. C'est parce que j'ai toujours recherché cette ambiance folle que l'on a trouvée au marathon. Mais le marathon, ça a été aussi pour moi l'occasion d'avoir de nouveaux amis, nouvelles connaissances. Et donc, c'est vraiment quelque chose. Dans 10 ans, j'espère que je continuerai de courir des marathons. Peut-être un peu moins vite, mais continuer à faire du marathon.
Tu trouves des points communs avec l'expertise entre le marathon ?
Oui, mais avec la vie aussi. Le fait que, mis à part quelques personnes tout à fait talentueuses, plutôt kenyanes d'ailleurs, on va dire, on ne s'improvise pas sur un marathon. C'est quand même une course qui fait mal. C'est une course mythique, mais c'est 42 km, c'est long. Même, il faut les faire, il faut donc se préparer. Donc c'est comme dans la vie, il y a des choses qui ne s'improvisent pas tout à fait. Dans nos métiers, c'est la même chose. On ne va pas voir un client sans avoir préparé le dossier, on ne prend pas une mission sans en avoir les compétences, mais on ne va pas se mettre dans un sas de départ d'un marathon sans avoir un peu d'entraînement, alors plus ou moins, hein, suivant les individus. Un marathon, c'est une course qui dure plusieurs heures, qui fait mal. C'est comme dans l'exercice professionnel, on travaille tous les jours, c'est par moments un peu dur, on peut avoir de la pression sur des deadlines, il peut y avoir des aspects techniques très compliqués, on peut avoir la pression des clients, enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses qui font qu'on n'a pas un exercice professionnel très serein, mais un marathon c'est aussi franchir une ligne, celle d'arriver et se dire ça je l'ai fait, je pense que dans nos métiers c'est aussi ça. C'est aussi avoir son téléphone qui sonne et un client qui vous appelle pour vous remercier, pour vous féliciter, pour vous adresser à un autre client en disant « j'ai parlé de vous ». Mais c'est pour ça que c'est un peu tous les ponts que je peux faire avec la course à pied.
C'est top. Avant qu'on finisse l'interview, j'aurais te proposé un jeu que l'on appelle Confession intime.
Oh.
C'est pour apprendre plus de toi auprès des auditeurs. Donc, je vais te poser une question et tu vas me répondre par moins ou plus. T'es prête ?
Allez.
Au niveau de la charge de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine ?
Ça dépend des semaines.
Période fiscale ?
J'ai pas de période fiscale.
Vous avez entendu, elle n'a pas de période fiscale.
J'ai pas de période fiscale parce que ça, c'est quand on fait que de la compta. Je ne fais pas que de la compta.
Donc, c'est de l'organisation, comme tu dis.
Voilà, c'est réparti tout au long de l'année. Non, très honnêtement, j'aurais envie de dire que je fais moins de 50 heures. Certainement que je fais moins de 50 heures, mais je ne mesure pas forcément. Mais il y a des pics et puis il y a des moments d'occupation. Alors moi, je vais prendre ça comme je vais m'enrichir, je vais apprendre. Voilà. Typiquement, si je vais passer une journée en formation, je ne suis pas en travail. Et pourtant, j'ai passé une journée. D'autres vont considérer qu'ils travaillent. Donc voilà, donc le mot travail me gêne un peu.
Est-ce que tu as plus ou moins de 10 amis proches ?
Plus, mais pas 50.
Au niveau du sommeil, tu dors plus ou moins de 8 heures ?
J'ai un petit chromosome de marmotte. 8 heures, c'est ce qu'il me faut pour repartir en pleine forme, mais je peux descendre à 6. Mais voilà. Par contre, je suis incapable de faire des grasses matinées.
Est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines de vacances par an ?
Je prends un peu plus, peut-être. J'en sais rien, dans le sens où j'ai la chance d'habiter une région qui est, puisque c'est Bordeaux, donc je suis un peu en vacances tous les week-ends. J'ai aussi la chance, de par l'organisation du cabinet, notre mode d'exercice, de pouvoir partir prendre 2-3 jours comme ça à la clé. Quand je pars faire un marathon, bah, je vais prendre aussi quelques jours. Voilà. Donc je ne prends pas 5 semaines d'affilée, je ne prends pas tout le mois d'août non plus, parce que j'ai une organisation familiale qui fait que bah, voilà, il faut aussi reprendre quand les enfants reprennent les entraînements très tôt. Donc je prends en fait un peu de vacances un peu tout le temps dans l'année.
Et à quel âge tu envisages de prendre ta retraite ? À plus ou moins de 65 ans ?
Ah, moins si je peux. C'est clair. C'est clair, je ne suis pas du tout dans le syndrome de vouloir durer. Et prendre ma retraite, pour moi, ce n'est pas la fin d'une vie. Ça sera faire autre chose différemment. Par contre, j'ai un médecin qui, j'avais assisté à une de ses conférences, qui disait qu'il ne fallait surtout pas s'arrêter de travailler. Donc, c'était comme ça, d'ailleurs, qu'on déclenchait des morts prématurées. C'est ceux qui avaient un exercice intellectuel très fort tout au long de leur profession, tout au long de leur activité professionnelle, et puis qui s'arrêtaient du jour au lendemain, et là, c'est terrible. Donc oui, moi, je n'ai pas l'intention de m'éterniser dans mon activité professionnelle. Quand je pourrais prendre ma retraite, je la prendrai, mais je continuerai de m'impliquer dans certaines activités. Ça, c'est clair.
Je te remercie, Nathalie.
Merci, Florian.
On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast « Pourquoi je suis expert comptable ?»